Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Tenez bon, c'est bientôt fini. La lumière au bout du tunnel. Allez, regardez ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Vous allez voir, on va s'en sortir. Gardez le moral. Et puis en attendant, pour les quelques semaines qui restent où on va encore un peu souffrir, ah ben on est là. On va faire cette émission, c'est votre week-end, c'est déjà une bonne nouvelle quand même. Bon, week-end confiné, week-end avec couvre-feu, mais week-end quand même, c'est votre argent, c'est une émission exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Bah parce qu'on va parler des événements qui ont marqué cette semaine. On va le faire, est-ce que je dis toujours, avec de bons coups de gueule? Il n'y a pas de coups de gueule hein, finalement. Bon, on va le dire sans langue de bois, ça c'est vrai.
Politiquement correct.
Exactement. Vous le savez maintenant, allez on se lance. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il est arrivé, mais vraiment très en retard, alors qu'il n'y a pas d'embouteillage, donc il n'a aucune excuse. Et en plus, il recommande des valeurs d'automobiles qui vont normalement très vite.
Bah, normalement, ça va bien.
Bah, oui. Et en plus, il vient d'une autre planète. Alors, c'est peut-être ça l'explication.
Mais c'est loin, Vegas.
C'est ça, Vegas, c'est loin. Très donc, loin. Moi, je regardais la route. Moi, je me regardais la route et je me suis dit, bon, ouais, il va arriver à l'heure. Donc, votre navette spatiale a eu un peu de retard.
Elle a eu du retard.
Bon, vous êtes le gourou de la planète Vega. Marc Ries, vous êtes DG de Vega IM. Comment ça se passe chez Vega?
Très bien.
Il y a de la vie sur Vega ou pas?
Il y a de la vie sur Vega, mais il y a une rotation value qui n'aide pas Vega.
Ah bah, José Bérot nous en parlait tout à l'heure dans le couloir. Dans ma longue carrière, et Dieu sait si elle est longue, hein, malheureusement, j'ai côtoyé des maîtres de conférences. J'ai connu des directeurs de production. J'ai même connu, il y a très longtemps, un chef de gare. Mais je n'ai jamais connu, mais alors jamais, un économiste de banque dont on ne sait pas de quelle banque il est économiste. Normal, il n'y en a qu'un au monde. Il est là avec nous, en personne, Michel Ruimi, donc je dois dire économiste de banque. Et je ne dois pas dire de quelle banque, c'est ça hein?
Vous avez bien compris la consigne, non, c'est vrai.
Non, mais c'est bien parce que maintenant, quand je parle à mes enfants et bientôt mes petits-enfants, je leur dirai j'ai connu un économiste de banque.
Oui, mais il faut en profiter parce que bientôt, on sera peut-être digitalisé, donc bon...
Alors lui, c'est un terrien à succès qui figure régulièrement dans les classements successifs de nos meilleurs gérants. J'ai une très bonne phrase. Les échecs font partie de sa vie, mais l'échec en est exclu. Pas mal, non?
Pas mal. C'est beau.
José Bérot, vous êtes fund manager à la financière de l'échiquier.
Bonjour Marc.
Vous aussi, vous parlez beaucoup de rotation. On va en parler tout à l'heure. Vous allez nous expliquer, parce que c'est passionnant. Vous nous avez expliqué ça juste avant l'émission. Et j'espère qu'on va en reparler. Alors lui, les médias se l'arrachent. Les banques se l'arrachent, les salles de sport, même fermées, se l'arrachent. Qu'ils poussent de la fonte ou qu'ils dissertent sur les fonds, c'est le champion toute catégorie chez nous, Christopher Dembick, Associate Director chez Berenberg.
Bonjour Marc, c'est beau. Comment ça magnifique va, introduction.
Ah ouais, mais là, ouais, franchement,
c'est travail,
vous pouvez applaudir. C'est allez, on passe
travail,
tout de suite.
C'est le travail qui a fait ça.
On va profiter qu'on ait un économiste de banque et aussi professeur. Et qu'on ait quelques professeurs ici pour qui donnent des cours régulièrement dans différents établissements en distanciel, c'est ça encore?
Oh oui, tout à fait, ça bouge pas. Hein.
Christopher Dembick, vous faites des conférences, des cours, des choses comme ça vous?
Oui, mais pas de manière permanente, pas comme Michel.
On va parler de l'argent magique et vous allez nous expliquer tout ça. Mais oui, levez la tête, regardez, l'argent tombe du ciel. Par centaines de milliards, c'est des chèques aux États-Unis, des prêts garantis, du financement de chômage partiel, des déficits, de la dette. Je voudrais qu'on prenne un peu de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé de l'argent magique. Mais nous, on va vous expliquer vraiment ce que c'est. Et je commence avec vous, Michel Ruimi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le circuit de création de cet argent et est-ce qu'il est magique ou pas magique?
Alors premièrement, ça veut dire définir déjà ce que c'est que la magie. La magie, c'est un art prétendu de produire des effets contre nature. Donc, est-ce que la monnaie est-elle magique? Alors, on essaye de le faire. Alors, Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est aujourd'hui, dans les pays développés, il y a une indépendance des banques centrales, okay, dont le seul actionnaire, c'est l'État national, on va dire. Et aujourd'hui, du fait de la crise financière, du fait de cette indépendance, eh bien, les banques centrales ne peuvent pas financer les États. Indépendance, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ce que ça veut dire. Et ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a un financement hypocrite des États. C'est-à-dire que aujourd'hui, les États s'endettent auprès des marchés financiers, donc c'est les banques commerciales, grosso modo, qui, entre guillemets, donnent la monnaie aux États, et après revendent les titres à la banque centrale qui les rachète.
Donc c'est un contournement de réglementation.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est autorisé. Mais en fait, c'est parce que c'est pas interdit, c'est autorisé. Donc c'est un financement hypocrite d'une certaine manière. Donc ce qui veut dire que lorsque on dit la BCE achète ou finance par exemple les États, ce sont chaque banque centrale nationale en Europe qui achète ses obligations et les garde.
Ces emprunts d'État.
Exactement, ces emprunts d'État. Et qu'est-ce qui va se passer en déroulement normal de la situation, les banques centrales touchent un intérêt. Et ce qu'il faut bien voir aussi, un autre paramètre, c'est que l'État qui s'endette ne rembourse jamais son capital. Il fait du
Donc c'est de la dette perpétuelle, en fait. Alors quand on dit...
Pas perpétuelle, ça, on va dire même, c'est même pas perpétuel, c'est infini, c'est d'une façon, c'est un financement automatique. Parce ouais. que perpétuel, voilà.
Quelle différence ?
Alors, infini, c'est que ça veut dire que d'une certaine manière, la Banque Centrale a une action vers ce financement. Quand c'est perpétuel, c'est j'ai donné le starter et puis après ça reste...
D'accord, mais là aussi on joue sur les mots.
Oui, mais c'est important parce que faut pas oublier que la dette c'est un contrat juridique. Mmh. Hein, parce qu'on se rend pas compte quand on fait la finance sur les marchés. Mais c'est un contrat, donc ça nécessite de respecter la volonté des deux parties.
Christopher Dembick, on appelle ça, quand j'étais petit, on disait faire tourner la planche à billets, c'est ça ? Ah. C'est une écriture comptable, c'est cet argent, c'est le chèque de 1 400 $ qui arrivait cette semaine dans les ménages américains, il vient d'où ?
Alors, ce chèque, effectivement, comme l'a rappelé Michel, clairement, aujourd'hui, on est dans un schéma qui n'existait pas avant et qui est un schéma qui est politique. J'insiste sur ce thème-là parce que c'est un choix politique d'autoriser les banques centrales à contourner, finalement, leur interdiction de financer directement l'endettement des États. On est dans ce schéma-là. Tout le message qui est dit par les banques centrales, c'est, étant donné qu'on est sur une crise exogène, qui ne pouvait pas être prévu, eh ben on a décidé d'aider les États à ce que l'économie se remette. Et pour aider les États à ce que l'économie se remette, il faut tout simplement mettre de l'argent sur la table. Pour qu'on n'ait pas des États qui s'endettent à des taux d'intérêt trop élevés. Comme un ménage, effectivement, si on a trop de dettes à un certain stade, on va pas vous prêter un taux très bas. Donc automatiquement, ce que font les banques centrales, c'est qu'elles rachètent cette dette auprès, justement, essentiellement des banques commerciales, comme l'a rappelé Michel. Donc on est dans un schéma où il y a une entente cordiale, entre guillemets, entre États, banques centrales et même, finalement, investisseurs privés, pour qu'on reste dans un environnement de taux très très bas. Et donc, comme manifestement, vu les niveaux d'endettement qui existent aujourd'hui dans les États européens, les États développés, on sait très bien qu'on ne va pas revenir à un état de fait qui prévalait avant Covid, c'est-à-dire que les banques centrales vont se retirer du jour au lendemain et vont abandonner ce soutien indirect aux États. Donc on est dans une situation où finalement on a une ligne droite, très très lointaine, j'oserais dire, où on sait que les États vont pouvoir continuer de rouler cette dette à des taux qui sont très très bas, tout simplement parce que les banques centrales...
Rouler, c'est-à-dire la repousser. Hein.
Voilà, oui, exactement. Ils vont se refinancer de nouveau, lorsque ça arrive à échéance, à des taux qui sont tout aussi bas. Donc on est dans un schéma où, effectivement, on peut parler d'argent magique. Mais le seul bémol auquel j'apporterai, je sais qu'on est en contradiction sur cela, c'est qu'on...
Jamais, Christopher, je ne permettrai pas.
C'est vrai, c'est juste un...
J'oserais jamais.
On commence à avoir des signaux qui nous montrent, effectivement, que ce soit du côté britannique, du côté américain et un tout petit peu du côté allemand, que même si on est avec cet argent magique, à un certain stade, les politiques nous disent il faudra bien que quelqu'un paye. Et aujourd'hui, il semble plus que ce soit les entreprises que les ménages. On comprend évidemment pour des raisons électorales pourquoi. Et on commence à aller sur ces hausses de fiscalité qui restent très très faibles. Il faut bien le rappeler, on n'est pas du tout dans un revirement comme on a pu connaître en 2012. Mais effectivement, on a quand même ce schéma-là qui commence à émerger.
Michel Rumi, très rapidement.
Oui, brièvement, je voudrais dire que l'action des banques centrales, généralement, de façon simple, c'est d'injecter des liquidités. Là, on est dans un problème totalement inconnu. On va vers des terres inconnues. C'est comment absorber ces liquidités qu'on a mises. Et c'est ça la grande difficulté.
D'accord, ça sera pour après.
Mais ça, on n'arrive pas. C'est quelque chose d'innovant, on va dire.
C'est une autre planète pour vous, les hommes.
Oui, c'est un peu une...
Non, mais pour des gérants, très sérieusement, vous regardez ça, et vous dites, si on vous décrivait, je passerai la parole à José après, ça, vous diriez, c'est une arnaque à la Madoff, quoi.
C'est un peu une sorte de Ponzi. En fait, pour nous, si vous voulez, qu'est-ce qu'on en conclut en tant que gérant? On se dit, en fait, quand ça va bien, l'économie fonctionne toute seule, le privé prend le pas et se développe. Et finalement, dès que le privé est en difficulté, on a une sorte d'option gratuite. Vous avez bien connu ça, vous Marc, comme moi. Elles n'étaient pas gratuites à l'époque, mais en tout cas, on a une option gratuite qui est que si ça tourne mal, finalement, on voit que les États, financés par les banques centrales, vont voler à la rescousse des entreprises. Et finalement, ce risque action qui normalement existe et qui justifie une prime de risque parce que l'entreprise dans laquelle on investit pourrait avoir fait faillite, eh bien, on voit qu'en fait, les États dans ces cas-là, se substituent. Donc finalement, ça nous incite plutôt à jouer les actions en se disant, il y a cette espèce d'assurance implicite qui est que quand ça va vraiment très mal, les banques centrales, les États
volent au secours du secteur privé. On appelle ça un banque centrale.
C'est ça.
C'est-à-dire la possibilité à un moment donné.
Mais c'est ça, c'est une option de vente.
Une option de vente, c'est-à-dire la garantie qu'on ne vendra pas en dessous d'un certain niveau.
C'est ça la conclusion qu'on tire de ça. Après, effectivement, les conséquences à long terme de cette création monétaire, ultimement, c'est la croyance dans la monnaie. Et ça,
c'est pas ce problème de l'annulation.
José Béraud, vous êtes gérant, vous appliquez des règles strictes de gestion, vous avez du bon sens. Quand vous regardez ça, vous dites quoi?
On a toujours, on a quand même l'impression que, pour reprendre ce que disait Michel il y a quelques instants, c'est vrai que cet argent a un caractère un peu de magie sur les marchés, en tout cas sur les marchés actions.
Raisons qui expliquent Marc.
Absolument.
C'est bien, hein, c'est-à-dire que quelque part, cet argent il arrive et puis on peut le jouer. Enfin, en fait, il se garantit lui-même, en fait, parce que c'est ce qui est un peu.
C'est ça. Mais quelque part, ça a aussi des côtés négatifs. Alors, juste quelques chiffres pour donner un petit peu l'ordre de grandeur. La semaine dernière, c'est la semaine où les fonds actions ont collecté 68 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est la collecte la plus importante de l'histoire. Jamais, en fait,
De l'histoire.
Oui. On n'avait jamais, les fonds actions dans le monde n'avait jamais autant collecté.
Mais juste, on explique l'argent. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est la collecte, c'est l'argent qui a été investi dans les fonds actions.
Des particuliers,
des institutions,
des banques.
Des compagnies d'assurance.
Qui confient cet argent à des sociétés comme la nôtre, comme celle de. pour investir ensuite sur les marchés actions. Depuis les élections américaines, c'est 550 milliards de dollars.
Jamais vu.
Donc, ce qui explique aussi. Peut-être, ou au moins en partie, la bonne tenue des marchés,
bien sûr,
actions,
évidemment,
dans un environnement économique, en tout cas sanitaire, qui était et qui reste un petit peu compliqué. Donc il faut quand même garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de magie, c'est-à-dire que l'argent qui est déversé par toutes les banques centrales dans le monde a cet effet effectivement magique sur tout un tas d'actifs, peut provoquer et va provoquer certainement et a déjà peut-être certainement provoqué des bulles dans certains actifs. Et donc pour répondre à votre question, effectivement en tant que gérant, il faut faire attention où on va confier notre argent, où on va investir sur le moyen et long terme, puisque encore une fois, il y a des actifs qui sont à nos yeux aujourd'hui survalorisés, mais il y a aussi des opportunités tout à fait attractives sur les marchés financiers à l'heure actuelle.
Alors on continue sur le thème de la Banque Centrale. Le temps passé. Parce que moi j'ai essayé de suivre la trace de cet argent magique et j'en ai trouvé une partie sur le bilan de la Banque Centrale Européenne. 7200 milliards d'euros, très exactement, c'est le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'était 2000 milliards en 2009, donc on était quand même déjà après la crise des subprimes, c'était 3000 milliards en 2012 après le quoi qu'il en coûte de Mario Draghi. Aujourd'hui, c'est 7200 milliards, 71,8% du PIB de la zone euro. Est-ce que c'est grave, Michel Rumi, ou est-ce qu'on s'en fout? C'est-à-dire la Banque Centrale aujourd'hui est devenue obèse, D'accord. Elle a 7200 milliards. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on s'inquiète pour rien ou il n'y a pas de sujet d'inquiétude?
Non, ce qu'il faut voir, c'est que le rôle d'une banque centrale doit être temporaire et non pas permanent.
Okay. Comme,
parce que je vois, par exemple, la Banque du Japon, ça fait 20 ans.
Ah oui,
et ça joue
plus
pas.
Même.
Voilà.
Depuis 89.
Voilà, donc ça entre guillemets. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut pas aussi pervertir le rôle d'une banque centrale. Donc d'avoir, si on dit 7200, ça peut être 10 000, pas le problème, mais il faut que ça soit surtout temporaire, que les mécanismes après de l'économie repartent. Et c'est ça qui est important.
Alors comment le bilan d'une banque centrale peut se réduire par le jeu de l'économie?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a en face de, enfin un compte, en face du passif, qui est des billets, pour faire simple, il y a des créances, c'est-à-dire des obligations. Donc l'idée, c'est qu'après, si cet argent permet de créer de la croissance, d'une façon simple, eh bien, le pays qui s'est endetté va rembourser le capital et les intérêts qu'il devra payer. Donc, on va dire, c'est un financement simple. Donc, aujourd'hui, on se dit, mais on n'est pas certain de la croissance. Donc, il faut envisager, vu l'immensité de ces créances, de dire, est-ce qu'il faut les annuler? Faut-il les rembourser? Faut-il les cantonner? Etc, etc. Et donc, tout dépend. L'idée, c'est quoi? C'est que, faut pas oublier que c'est toujours, et je répète toujours, c'est au niveau légal, c'est une obligation de rembourser, et que si, admettons, la France décide du jour au lendemain de dire, ben voilà, je rembourse pas, eh bien, ça pose d'autres problèmes, parce qu'elle engage d'une certaine manière les autres pays,
ouais.
Et puis, d'autre part, c'est qu'elle ne peut pas le faire, parce qu'elle doit le faire de façon générale avec l'ensemble de ses créanciers. Donc, ça pose ce problème. Mais et si je reste au niveau de la Banque de France, imaginez que l'État français annule la dette de la Banque de France, eh bien, concrètement, c'est un appauvrissement. Pourquoi? Parce que l'argent que gagne la Banque de France, comme l'État français est le seul actionnaire, il reçoit grosso modo, l'État paye son intérêt le coup, ouais. Et puis il le redonne après.
Ouais.
Si on annule, en fait, le bilan se détruit, mais en même temps, l'État, la nation s'approprie aussi. Et c'est ce qui pose problème.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le bilan, parce que quand on regarde le bilan de la Banque Centrale, oui, ce que dit Michel Ruimi, c'est de dire ça doit être temporaire. Si on regarde depuis la création de la Banque Centrale Européenne, ça n'a fait que grimper, et ça a grimpé de façon exponentielle depuis un an.
En Europe.
En Europe. Ce bilan, comment va-t-on le réduire? Et où est-ce que ce n'est pas un sujet et ce n'est pas un problème? Voilà. Et quand on parle de notre argent, on ne doit pas s'en inquiéter.
Effectivement, on est plus sur cette orientation-là. Okay. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un débat, si on le souhaite, sur est-ce qu'il faut ou pas le réduire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la taille du bilan d'une banque centrale est un non-événement. C'est-à-dire que vous avez une myriade d'études qui ont été menées et ont été menées après le lancement du QE aux États-Unis sur, parce qu'il y a ce sujet, est-ce que si la taille du bilan de la Fed augmente beaucoup, ça va avoir un impact négatif. Par exemple, on parlait, est-ce que la Banque Centrale peut devenir une bad bank? Toutes les études qui ont été menées vous montrent que finalement, non, peu importe, que ça augmente, finalement, ça ne crée pas du tout de problème. La réalité derrière cela, c'est que il faut, et je pense que le marché a bien intégré cette réalité-là, c'est que la réduction du bilan d'une banque centrale n'est pas une priorité. Ce sera éventuellement conditionné à une amélioration économique significative, mais aujourd'hui, cette amélioration économique significative, elle n'est pas en ligne de mire. Je sais bien que tout le monde dit 2022, peut-être 2021, on aura un fort rebond de la croissance. Certes, tout le monde est d'accord avec cela, mais la réalité, c'est la croissance moyenne sur les 5 et 10 prochaines années. Est-ce qu'elle sera supérieure à la croissance des 10 dernières années? On n'a aucune certitude aujourd'hui.
Donc, on va rester avec ce bilan monstrueux?
J'ai tendance, en tout cas, à croire à titre personnel qu'on restera avec un bilan qui sera très important et qui pourrait même continuer d'augmenter, puisque je ne vois pas de capacité de sortie des politiques monétaires accommodantes avec des niveaux de croissance même de 2-3% sur le long terme quand on a des niveaux d'endettement si élevés.
Sans conséquence
aujourd'hui.
Alors,
très clairement.
Pourquoi on
ne
pousse pas le raisonnement jusqu'au bout? C'est-à-dire, dans ce cas-là, pourquoi on n'arrête pas tout? Peut-être tout le monde arrête de bosser et puis on finance tout avec de la dette. Non, mais je veux dire, pourquoi on fait des impôts encore? Pourquoi on. Puisqu'on ne va jamais. De toute façon, on est en train d'expliquer. Globalement, le déficit des États est financé par les banques centrales, c'est ce que vous dites. Que ce n'est pas un problème d'avoir un bilan monstrueux de banque centrale et qui peut monter de façon illimitée. Bah dans ce cas-là, il faut arrêter les impôts, il ne faut plus avoir de recettes d'État.
Non.
Bah, je veux dire,
parce qu'il y a la monnaie derrière.
C'est ça, c'est exactement.
Il y a la monnaie derrière.
Oui, mais si tout le monde le fait. Parce qu'on l'a vu.
Mais regarde, quand vous disiez, Marc, tout à l'heure, le bilan de la Banque Centrale Européenne n'arrête pas d'augmenter depuis des années. C'est vrai. Mais si vous regardez aux États-Unis, par exemple, il y a eu une période de reprise entre 2016-2017, voilà, où là, la Banque Centrale Américaine a réussi à réduire la taille de son bilan en remettant les obligations en question sur le marché. Donc, c'est pas quelque chose qui est totalement inexorable. C'est vrai qu'en Europe, ça paraît très très difficile, effectivement, d'envisager cette manœuvre-là, parce qu'on sent bien que les États, d'abord la croissance de la zone euro est très faible, et puis les États européens sont très endettés, et puis surtout, ce qui se passe, c'est que déjà la fiscalité est très élevée.
Ben oui.
Alors qu'aux États-Unis, la fiscalité est raisonnable, donc en théorie, elle mais pourrait être augmentée, et surtout, quand ça repart,
évidemment,
les rentrées fiscales sont importantes.
Je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, voilà, c'est pourquoi pas aller poser l'exercice jusqu'au bout.
Parce qu'en fait, on est dans un jeu de pantomime.
Perte de valeur de la monnaie.
C'est-à-dire, oui. Voilà, exactement.
Oui, mais si on le fait tous, si les États-Unis le font...
Oui, mais
si,
vous n'aurez jamais de coordination monétaire.
Oui, on l'a eu quand même. Là, regardez quand même, depuis un an, les monnaies n'ont pas bougé. Depuis un an,
le marché d'échange a très peu bougé, effectivement. Bah. Mais on est sur une concertation de facto pour un cas bien spécifique. Mais je doute que sur du très long terme, on aurait une concertation à ce niveau.
Vous auriez l'impression. Donc,
quel est le rôle, à ce moment-là, quel serait le rôle de la Banque Centrale?
Ben, moi, je me le pose, là. Je me pose la question, je vous la pose.
C'est la valeur de la monnaie. C'est que là, on parle effectivement quand on dit le marché d'échange a été peu affecté. C'est vrai que comme tout le monde a fait ça,
bah oui.
C'est vrai de dire, ça a pour le coup pas créé de divergence majeure entre les monnaies.
On a une volatilité incroyablement basse sur les...
C'est vrai, surtout en période de crise. Mais il y a quand même une chose, après c'est l'histoire du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire que si effectivement à un moment donné...
Il n'y a pas d'inflation.
Alors, il n'y a pas d'inflation,
mais surtout
parce que la monnaie qui a été créée pendant cette période de pandémie... Finalement, elle a servi aux États à se substituer à l'économie. Voilà. Mais imaginons demain qu'il y ait à la fois une reprise de l'économie et qu'il y ait une surabondance de monnaie. Là, il y aurait de l'inflation et là, cette monnaie perdrait de son pouvoir d'achat. Donc la limite de cet exercice dont on parle depuis tout à l'heure en disant, c'est vrai, pourquoi dans ce cas-là
ne pas émettre... C'est pas un débat...
Faire monter à 50 milliards
qui nous écoutent,
le bilan de la BCE.
Voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est pas un débat totalement théorique.
Bah c'est-à-dire
que c'est des gens à qui on a dit, il y a deux ans, il faut faire des réductions de dépenses publiques et il y a la réforme des retraites et il faut qu'on trouve 2 milliards pour 2027. Mmh. Et là, on leur dit, Christopher nous dit, mais attendez, on s'en fout, rajoutons 1000 milliards au bilan de la Banque Centrale Européenne, il ne se passera rien.
Oui, mais la question va se poser lorsque, on va dire, la crise sera terminée, il faudra régler la question de la réduction des dépenses publiques des 100 premiers
pourcents. Mais non, mais pourquoi ?
Non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut régler...
Vous avez dit vous-même le Japon, ils sont à 230%,
mais la réalité, c'est qu'on pourra
et depuis 30 ans, il ne s'est rien passé.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir, il y a quand même les 100% au précédent qu'il faudra rembourser quand même d'une certaine manière.
Là, pourquoi ?
Et pourquoi il faut à un moment donné...
Le Japon l'a jamais remboursé, ils sont à 230%.
Oui, mais ça c'est différent parce qu'il le fait, il fait réactiver comme ça. Ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que demain il va y avoir la retraite la retraite française à financer. Il y a aussi le rôle de l'État parce que là aussi on dit oui, il n'y a pas eu d'impôt, mais quel est le rôle de l'État alors, puisque de manière générale l'impôt doit financer en grande partie l'action de l'État.
Oui, mais puisqu'on a la capacité
de créer
de l'argent magique sans limite, José Berros.
C'est pas sans limite.
Oui. Non, vous qui regardez des bilans d'entreprise toute
rêver,
la journée,
ça fait rêver
et qu'on vous dit, écoutez, je peux exposer mon bilan, et vous regardez des bilans de banque aussi.
Pas de banque, non, parce qu'on n'investit pas nous dans la banque, mais
dans la gestion.
Bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait rêver, puisque n'importe quelle entreprise, il y a quand même des ratios qu'on doit respecter, de niveau d'endettement.
Christopher nous dit non.
Et Christopher, effectivement, donc c'est on revient au monde magique. Alors c'était l'argent magique, mais il y a le monde magique des banques centrales. Pour moi personnellement, c'est vrai que j'ai pas d'avis sur est-ce qu'il y a une limite à l'endettement des banques centrales. Personnellement, je ne le sais pas, mais je pense que comme toute chose, c'est certainement pas très bon, très sain d'aller dans l'excès. Et j'imagine qu'il y a quand même quelque part une limite, ne serait-ce que si jamais on change un peu de braquet et on se dit les taux d'intérêt qu'on a connu extrêmement, extrêmement bas depuis des années, commencerait à remonter. Alors, on reste certes à des niveaux très bas, donc il n'y a pas de sujet aujourd'hui, mais si jamais, qui sait, peut-être dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, on devait revenir à des taux d'intérêt entre 2, 3,
4%. Ce qui n'aurait rien d'absurde.
Ce qui n'aurait rien d'absurde, encore une fois.
Par rapport à la croissance.
Quelle serait peut-être la vision des marchés sur une dette des banques centrales qui aurait comme ça, qui serait devenue complètement gargantuesque? Je ne suis pas certain que la sérénité...
Michel Rumi, on va faire des
questions.
La dette française, il y a à peu près 15% au ATI. Donc en fait, si l'inflation monte, ça touche 15% en gros la dette. Donc ça augmente. Après, c'est pas 80%. Quoi.
Christopher Dembick, pour conclure sur le sujet.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le rôle des banques centrales, et depuis finalement Draghi, ce sont des banques centrales qui sont politisées. Et je ne mets pas ça négativement. Et donc aujourd'hui.
Donc plus indépendantes,
bien sûr.
D'accord.
Dans les statuts, le
ah, parce que Michel nous dit tout à l'heure, oui, il y a l'indépendance des banques
centrales. Alors, dans les statuts, elles ne le sont pas. La réalité, c'est qu'elles ne le sont pas.
Elles sont de plus en plus politiques.
Regardez par exemple le débat aujourd'hui en Allemagne. Les Verts allemands, et c'est important, je parle des Verts allemands tout simplement parce qu'ils vont être décisifs dans les prochaines élections législatives.
Ils sont à moitié plein, parce que le Vert à moitié plein.
Tout à fait, c'est une bonne.
C'est une bonne blague. J'ai pas trouvé plus lourd.
Les Verts allemands souhaitent que la Banque centrale ait un objectif qui ne soit pas uniquement l'inflation, mais l'emploi. Alors c'est souvent revenu sur la table, mais grosso modo, tout le débat aujourd'hui au niveau du rôle et des missions des banques centrales, c'est de dire que l'inflation, quand il y a ce mandat-là, eh ben c'est pas suffisant, il faut faire autre chose. Soit le changement climatique, ça peut être l'emploi, donc ça veut dire quoi ? Que les banques centrales devront être accommodantes sur le long terme. Elles vont financer les États sur le long terme des taux très très bas, parce que politiquement, on considère qu'il y a des enjeux qui sont supérieurs à la question de la dette, que ce soit le changement climatique ou l'emploi.
Donc on est... La gestion politique des pays est dans la main des banques centrales.
Ah, complètement.
Oui, parce que d'une part, il y a tout l'aspect écologique qu'il faudra financer, parce qu'on est en changement de modèle économique, et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'auparavant, il y avait Draghi qui avait une carrière plus ou moins de banquier, qui on nomme, Mme Lagarde, qui n'est pas forcément, qui, je ne mets pas en doute ses compétences, mais qui est plutôt politique. Et donc,
et de l'autre côté, on a des banquiers qui deviennent politiques, ce qui prouve que...
Voilà, il n'y a pas une intention.
Super. Allez, on passe en deuxième partie de l'émission, on va parler des marchés, on va se demander justement pourquoi les marchés craignent la hausse des taux, est-ce qu'il faut choisir, on parlait d'échange entre l'euro et le dollar, quelles actions choisir, et bien sûr, le top 3.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission après une première partie qui était, je vous l'avoue, assez passionnante et très déconcertante sur la création de cet argent magique. Je pense qu'on est allé assez, on n'est peut-être pas allé au bout du sujet, mais on a quand même donné quelques explications avec Christopher Dembick, le champion des salles de marché et des salles de muscu, avec l'homme qui nous vient de l'échiquier, c'est José Berros, avec Michel Ruimi, l'économiste de banque. On dit pas la suite, et avec... Ah oui, vous êtes là encore, vous êtes
pas reparti, non,
parce que vous arrivez...
En retard,
mais vous partez pas avant.
Non,
ah bon, ça va. Allez, on passe tout de suite au marché. Alors, pour l'instant, les taux se sont calmés. Pour l'instant, hein, ils ne montent plus. Donc, les indices boursiers se sont calmés. Alors, on a des rotations sectorielles. J'adore ce terme. Et on va vous réexpliquer parce que c'est quand même vraiment passionnant. Ça paraît technique, mais ça ne l'est pas. C'est assez spectaculaire. Alors, est-ce que tout ce calme relatif des marchés, c'est le calme avant une nouvelle vague d'euphorie, hein, c'est possible, puisque de toute façon, Christopher Dembick nous a dit, bon, les banques centrales, ça y est, il n'y a plus de limite, c'est open bar. Et qu'en plus, on a donc cette garantie des banques centrales. Donc, allez-y, achetez. De toute façon, il en restera toujours quelque chose. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que c'est le calme avant le calme? José Berros, vous nous réexpliquez un peu la rotation. Et vous me disiez tout à l'heure, avant le démarrage de l'émission, qu'on n'a jamais connu la rotation telle qu'on l'a connue aujourd'hui.
Ouais, la rotation.
Aussi puissante et aussi longue.
Rotation sectorielle, c'est-à-dire que c'est véritablement un changement de style dans les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on est passé à partir du 8 novembre 2020, c'est-à-dire le jour de l'annonce du vaccin de Pfizer, à partir de ce moment-là, les marchés ont pris une direction totalement inverse, c'est-à-dire que c'est le style, ce que l'on appelle le style value, donc des secteurs qui sont cycliques, qui ont été attaqués, des secteurs qui ont énormément souffert en 2020 de la crise sanitaire et de la crise économique. Tous ces secteurs-là se sont mis à rebondir de façon assez forte, donc encore une fois, à partir du mois de novembre, avec des hausses pour le secteur bancaire de l'ordre de 30 à 35%, pour le secteur du pétrole, oil and gas, pétrole, 30, 40, 50%, certaines valeurs même sont en hausse de plus de 100%. Et à contrario, donc tout ce qui avait été, on va dire, adoré en 2020, le secteur ou les valeurs de la croissance ont été délaissées. Ah, elles n'ont pas baissé, hein. Je reviendrai peut-être sur ce point tout à l'heure.
Non, c'est important, mais dites-le, expliquez tout de suite, parce que c'est très important. Finissez sur le...
Elles n'ont pas baissé, hein, le secteur...
C'est-à-dire ça se fait par palier.
Exactement, c'est-à-dire que on avait atteint des niveaux de valorisation et des niveaux de marché, en tout cas sur les secteurs des valeurs de croissance, encore une fois le secteur de la santé, les secteurs, les valeurs de l'IT, la technologie, des niveaux extrêmement, extrêmement hauts. Sauf le Nasdaq, hein, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, le Nasdaq a corrigé, mais sinon les autres secteurs dont je parlais ont très très peu corrigé.
Okay.
A contrario, tous les autres secteurs, donc value, qui avaient été massacrés en 2020, qui avaient perdu 30, 40, 50%, se sont mis à rebondir de façon, encore une fois, assez prononcée. Donc voilà, on est vraiment dans ce...
Donc c'est ça la rotation, c'est-à-dire j'abandonne, c'est une collection qui est plus à la mode que l'autre. C'est-à-dire là, on n'achète plus la croissance, mais on ne la vend pas.
On ne la vend pas.
Ça, c'est ça qui est intéressant.
Oui.
Donc on construit par palier, et maintenant on achète value, c'est-à-dire on achète des boîtes qui ont été massacrées, en gros.
Exactement.
D'accord,
c'est ça, des boîtes qui ont été des boîtes ou des secteurs même qui ont été totalement
donc
massacrés.
Est-ce que tout ça est normal?
Si vous voulez, quand on
est-ce
prend
que c'est sain, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a une aberration, est-ce qu'il y a un danger?
À l'instant T, moi je trouve que la rotation, en tout cas, c'est une correction des excès futurs, enfin des excès passés. C'est-à-dire que 2019-2020, on avait été sur des secteurs, notamment les secteurs de la croissance, qui avaient atteint des niveaux de valorisation quand même assez élevés.
Ok.
Donc voilà, on est pile dans ce moment où il y a cette rotation.
Donc vous dites
rotation.
Aujourd'hui, on est dans un rattrapage, mais il y a rien d'aberrant.
C'est un rééquilibrage, il y a rien d'aberrant. Sauf que quand même, ce qu'il faut, il faut quand même noter deux trois petites choses. La première, c'est que ce mouvement est assez homogène et emporte, si vous voulez, des sociétés alors qui sont de qualité dans le secteur value, mais aussi tout un tas de sociétés, on va dire, qui sont avec des niveaux de qualité assez faibles, des sociétés qui sont très endettées, certaines d'entre elles proches de la faillite, avec des business models qui sont extrêmement risqués. Tout ça a été mis, on va dire, dans le même panier, dans les mêmes facteurs, quelque part on parle de facteurs de marché, et donc c'est là où il faut faire attention, puisque des sociétés, je ne citerai bien évidemment aucun nom ici, mais des sociétés qui ont des futurs, en tout cas, ou des business models.
Trop de teasing, là.
Non, ou des business models.
Balancer des noms. Non,
des business models qui sont encore
des
une fois.
Des noms.
Très risqués.
On va savoir sur Twitter.
Voilà,
sont en hausse, voilà, encore une fois, de 50, 100, 150%. Et c'est là où on dit, il faut faire quand même très, très attention. Il y a aussi toute la thématique de réouverture de l'économie. Donc, ces secteurs-là, c'est quoi? C'est la restauration, l'hôtellerie, les compagnies aériennes. Tous ces secteurs-là, encore une fois, qui avaient été massacrés, ont connu des hausses depuis 5-6 mois qui sont de l'ordre de 40, 50, voire des cours qui ont doublé. Donc c'est là où il faut faire attention entre, oui, c'est un rééquilibrage ou en tout cas un réajustement des excès de 2020, mais il faut faire attention puisque certaines sociétés aujourd'hui, en tout cas à mon avis, dans le secteur value, on commence à payer des sociétés qui sont vraiment très très chères.
Et vous voulez dire quelle boîte?
A contrario, dans le secteur croissance,
j'arriverai pas, je crois.
On arrive à trouver de très belles valeurs de croissance avec des niveaux de valorisation qui redeviennent attractives.
Marc Riel,
oui.
Ce qu'il faut c'est bien le calme avant le calme avant la nouvelle euphorie ou le calme avant la tempête.
Alors moi déjà le fait, si vous voulez, que les valeurs qui sont courtisées quand on veut jouer la réouverture de l'économie ne soient pas les mêmes ou soient exactement l'inverse de celles qu'il fallait jouer pour la pandémie, c'est normal.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire que on a joué des valeurs défensives, des valeurs qui n'étaient pas abîmées par la pandémie en 2020.
Voire
qui en ont pour certaines beaucoup profité.
On parle des Netflix, on parle
des Amazon, de ces valeurs-là. Voilà. À contrario, si on veut jouer la reprise, c'est normal qu'on joue ces secteurs justement du tourisme, de l'automobile, de l'aéronautique, etc.
Donc ça vous choque pas.
Donc ça me choque pas. Le sujet de la valorisation, en fait, il est lié à la dynamique des taux d'intérêt.
Alors on en parle tout à l'heure. Ça c'est après.
On en parle.
Mais
tout à l'heure.
Aujourd'hui, est-ce que vous me dites les marchés, c'est normal, donc comme José, mais il faut faire attention, il y a des excès, ou est-ce que vous dites là, il va y avoir comme tous nos économistes nous disent qu'on va raser gratis, est-ce qu'on peut continuer à monter encore? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, non?
On peut continuer à monter parce que avec l'ampleur des plans de relance, avec tout ce va être injecté, rouvert, ça peut aller au-delà, surtout... Il y a quand même un truc, c'est que, si vous voulez, dans la valorisation d'une action, Vous avez les bénéfices, ça, donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement se reprendre encore, qui pourra acheter encore positif. Par contre, au dénominateur du quotient, là vous avez les taux d'intérêt.
D'accord.
Et en fait, ce qui se passe,
donc
c'est
que... Donc vous voulez absolument qu'on parle du sujet du deuxième sujet. Allez, je le lance parce que sinon on ne va pas y arriver. Allez, on passe tout de suite à la question puisqu'il est en train de la traiter.
Ah.
Ben oui, au mon bateau, donc ça c'est la grande blague, c'est les marchés qui craignent la hausse des taux, bateau, voilà. C'était, ils n'ont rien trouvé de mieux. Expliquez-nous pourquoi donc les marchés craignent la hausse des taux, et si, alors qu'est-ce qui se passe si les marchés montent, puisque vous avez commencé à le faire, continuez.
Voilà, c'est ça, c'est qu'effectivement, cette reprise de l'économie, cette injection d'argent, etc.,
donc là,
le marché se dit, ben les taux vont monter. Et ce qui se passe, c'est que en septembre dernier, vous aviez un 10 ans américain autour de 0,70.
Emprunt d'État à 10 ans américain,
le T-note, comme on l'appelle, eh bien, il est passé de 0,70 à 1,70.
Bon.
Donc, si vous voulez, sur l'espace de quelques mois.
Très bas quand même.
Ce qui reste.
Dans l'absolu.
Très bas, mais ce qui bouleverse un petit peu la valorisation qu'on peut donner aux actions, puisque justement, on les valorise en actualisant les bénéfices futurs, et forcément, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus le résultat de cette actualisation du futur.
Donc vous dites c'est mécanique, c'est pas une question de, c'est pas psychologique, c'est pas
Il y a le fait qu'elles avaient beaucoup monté ces valeurs technologiques qui donnaient envie de prendre des bénéfices, mais surtout ce phénomène de valorisation par les taux d'intérêt mécaniquement fait baisser la valeur de ces valeurs, de ces grandes valeurs de croissance technique.
C'est comme ça que vous expliquez le truc à vos élèves?
Oui, c'est le processus de la valeur actualisée nette. Hein, c'est le taux d'actualisation, c'est inversement. Sur les taux d'intérêt, et donc la hausse des taux, c'est surtout lié à la politique de M. Biden, dans une certaine mesure, où concrètement, en mois de février, par exemple, l'inflation était à 1,7 sur un an, et en janvier à 1,4. Donc, relativement stable. Mais on a peur que...
Pas d'inflation encore aux États-Unis.
Elle est modérée, elle est stable. Je veux dire, on retourne à des terrains normaux entre guillemets. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on a peur que toute cette impulsion donnée par M. Biden va créer de l'inflation et donc une remontée des taux, et donc on rejoint le raisonnement de Marc. Donc Marc.
Et parce que moi, j'ai pas de raisonnement.
Si.
Non, mais c'est pas grave. Vous dites-le, c'est pas grave.
Pas du tout. Non. Donc
sinon, je balance dans quelle banque vous travaillez.
C'est
du
chantage.
Non, jamais.
C'est ça qui est important. Et donc, le plan Biden, c'est quoi? C'est un succès politique avec un risque économique important. Et c'est ce qui peut poser. Et moi, ce qui va me poser le problème, c'est est-ce que tout ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour les autres? Et comme on a plus favorisé la consommation des Américains avec le chèque, là, de 1 400 $, ce qui veut dire qu'on va beaucoup consommer, du moins les Américains vont consommer en important. Donc ça va être positif pour nous, donc on l'estime à 0,5% de croissance pour l'Europe et la Chine. Mais
pour la Chine que pour l'Europe, non?
Oui, mais l'idée est que quand même, malgré il ne faut pas imaginer un rebond énorme de la consommation, du moins de l'activité économique américaine. Donc on a peur, alors que c'est déjà en surchauffe. Donc cette impulsion risque d'amener, et c'est ça qui amène le problème.
José Berros.
Sur les marchés, je pense que les marchés ne craignent pas une hausse des taux. Les marchés craignent une hausse trop rapide des taux. En fait.
Ah d'accord, donc
c'est
si
ça,
c'est graduel et contrôlé, c'est pas un problème.
Exactement. C'est-à-dire que si on va progressivement autour de 2%, le marché ne prendra pas peur, si vous voulez.
On parle toujours du taux de référence qui est le taux d'emprunt des États-Unis à 10 ans.
Exactement, on parle toujours de ce taux d'intérêt à 10 ans. Donc c'est plus le mouvement, la violence du mouvement qui pourrait faire craindre les marchés financiers. Ensuite, il faut garder, en fait, moi je pense qu'il faut avoir des raisonnements aussi simples, c'est-à-dire qu'on reste sur des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement, extrêmement bas, et qui dit hausse des taux aussi, dit quand même une économie qui porte mieux, des entreprises qui vont mieux,
qui font des bénéfices,
oui, mais
des
entreprises coût du risque qui apparaît aussi,
qui vont faire des bénéfices en croissance.
C'est un coup bas, ça.
et à la fin de la journée, quand même, la bourse, le moteur primordial, enfin principal de la bourse, c'est quand même la capacité des entreprises à générer des bénéfices.
Est-ce que c'est vrai ce que vous dites?
Bien sûr. Enfin, je le pense en tout cas.
Est-ce que c'est pas le moteur de la bourse, c'est pas juste l'argent créé par Christopher Dembig?
Ah, il y a eu
des banques centrales.
Christopher.
Je suis sérieux, je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est encore le moteur, les bénéfices des entreprises? Est-ce que c'est encore le moteur de la progression des titres? Oui.
Moi, je le pense, bien sûr.
Oui.
Mais c'est vrai, et là où je vous rejoins, c'est vrai que cette cette manne financière qui a été déversée et qui est toujours déversée sur les marchés financiers a été une aide absolument incroyable pour les marchés financiers.
Il y a
deux
moteurs.
C'est certain. Il y a le moteur des flux que vous évoquez et qui est réel. Et il y a quand même le moteur plus fondamental de la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices année après année. Et si vous voulez, quand on regarde le cours d'une entreprise sur 10 ans et vous mettez en face l'évolution de son résultat, en général, sur longue période, la corrélation, elle est flagrante.
Christophe Ardemic.
Aujourd'hui, je pense que la remarque était très pertinente sur la vitesse, finalement, parce que c'est ça le vrai enjeu. Lorsqu'on regarde les taux, ils sont à des niveaux relativement bas. On sait très très bien que les banques centrales ne permettront pas, et elles le répètent suffisamment régulièrement, une envolée de ces taux. Donc, il n'y aura pas d'effet de panique. En revanche, on a finalement une fenêtre à risque pendant encore quelques mois, puisqu'on va avoir, à partir de mai-juin, l'effet de base lié à la forte chute du prix du baril de pétrole. Donc, on va avoir une inflation qui va... vous allez avoir finalement, comme on avait eu le prix du baril de pétrole qui était même en territoire négatif sur les contrats, vous allez avoir eu tout simplement une très forte appréciation sur un an lorsqu'on calculera. Donc il faudra simplement relativiser cet effet. On a la semaine prochaine aussi des chiffres de l'inflation en zone euro qui sont un peu supérieurs certainement, mais on est sur un phénomène qui est très conjoncturel, qui est lié à quelques facteurs. Et la chose que sur laquelle le marché parie, notamment dans ces fameuses anticipations d'inflation, c'est de se dire que toute l'épargne qui a été accumulée par les ménages, ça va se réintroduire dans l'économie rapidement, et puis ça va créer de l'inflation automatiquement avec une demande plus forte que l'offre. Le problème, c'est que vous avez beaucoup d'études qui vous montrent que finalement, qui a accumulé plus d'épargne ? Surtout les ménages les plus aisés, qui ont donc une propension à dépenser qui est beaucoup plus faible. Donc, bien sûr, il y aura un effet positif sur la consommation, mais il faut vraiment se garder de se dire qu'on va sur un emballement des taux d'intérêt et de l'inflation sur du moyen long terme.
Moi, je pose rien que la question, et je fais référence à Bank of Japan, la banque du Japon, qui rachète des actions. Pourquoi ne pas envisager ceci ? Je ne souhaite pas, ni quoi que ce soit, mais on voit que toutes les...
Pourquoi l'envisager alors que tout va bien ?
Pas la peine.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à supposer que le marché actions vienne à être perturbé, à baisser, ou etc., on peut pas...
Marc Ries vous dit si le marché baisse, c'est pas grave, puisque Christopher Demick recréera de l'argent.
Oui, donc
on risque rien.
Moi, je dis, il ne faut pas oublier que quand même, il y a un décideur, à un moment donné, qui dit, oui, on y va, on n'y va pas. La question qu'a posée José, c'est, il ne va pas le faire du bleu temps blanc. Le décideur, le gouverneur de la Banque centrale, quel qu'il soit, va le faire graduellement pour dire attention, et on va avoir une forte communication gouvernementale, du moins au niveau des banques centrales, en disant, attention, on va avoir des faits, on va avoir des signaux. Oui, parce qu'on ne peut pas...
Vous pensez qu'ils auront le courage politique de le faire ?
Oui, parce qu'à un moment donné, il faudra faire un bénéfice-risque, c'est-à-dire, d'accord, il faut financer, mais ce qui va se poser comme problème, c'est qu'il y aura peut-être une attention plus aiguë sur les investissements. On demandera peut-être aux décideurs politiques d'avoir des retours sur investissement concrets, et non pas de faire des dépenses de fonctionnement, d'une certaine manière.
Je n'y crois pas du tout. Quel est le mot qui vous a marqué cette semaine, Christopher Demick ?
Fausse joie. Tout simplement parce qu'on a eu un emballement un peu avec des indicateurs sur l'évolution du secteur manufacturier, des services, du climat, des affaires, qui étaient très très positifs. Tout le monde était ravi de ces bons indicateurs. Le seul souci, c'est que les enquêtes ont été collectées juste avant les annonces des différents confinements dans plein de pays. Donc l'optimisme sera de très courte durée. Il faudra attendre les prochaines enquêtes et je pense qu'on va revenir sur Terre.
José, quel est...
Moi, c'est le rebalancement, pour revenir un peu à toutes ces histoires de flux, en fait. C'est donc les rebalancements des allocataires. Vous savez, les grands allocataires d'actifs, à la fin de chaque mois, font des rebalancements. Les marchés actions ont tellement monté sur le premier trimestre qu'ils sont obligés de faire des rebalancements, donc de vendre.
Expliquez juste très rapidement, parce que tout le monde n'est pas familier avec les rebalancements.
Les rebalancements, c'est-à-dire que les allocataires d'actifs font des répartitions, en fait, de leur poche d'investissement entre les actions globalement. D'accord. Et puis les obligations. Les actions ayant monté de façon assez importante au cours du premier trimestre.
Pour rester au même pourcentage.
Pour rester au même pourcentage.
Obligés de réduire.
D'accord. Ils sont obligés de vendre et donc sont obligés de réduire.
Okay.
On estime que il y a à peu près 90 milliards de dollars à vendre avant la fin de ce mois de mars. Ce qui d'ailleurs provoque, vous le voyez depuis quelques jours, on estime certaines volatilités sur les marchés. Donc il resterait, ça aussi c'est compliqué, mais il restera à peu près 20 milliards de dollars à vendre. Donc tout ça c'est pour montrer.
Donc ça c'est presque mécanique, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins positifs sur les marchés.
Non, c'est vraiment c'est mécanique. C'est mécanique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour revenir à une allocation cible qu'ils ont. Mais ça démontre quand même l'importance et l'impact des flux sur les marchés financiers qui font au-delà du fondamental des sociétés.
Michel Rumi.
Un thème qui vous adore, que vous adorez, c'est l'indépendance des banques centrales.
Vous les m'énervez là.
Non, notamment avec ce qui s'est passé en Turquie, on ne peut pas rester muet là-dessus, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne s'aperçoit pas de l'intérêt d'avoir une banque centrale indépendante, et l'idée c'est de revenir sur qu'est-ce que ça signifie. Indépendance de banque centrale, d'abord institutionnelle, c'est-à-dire qu'indépendance par rapport, on ne reçoit pas, ni on n'est pas influencé politiquement, mais il y a aussi influence, indépendance...
C'est marrant que vous arriviez à dire ça sans rigoler, quoi.
Ben oui, parce qu'il faut le voir, pour le croire, et ou le vivre, et l'idée aussi est aussi de indépendance financière, parce que la banque centrale, c'est bien de dire indépendance, mais il faut qu'elle gagne son argent, hein, pour payer ses agents. Également aussi, il faut, on va dire, juridique, dans le sens où elle peut éventuellement se, on va dire, contester, on va dire. Et donc, la contrepartie, c'est que Christine Lagarde doit faire rendre compte auprès du Parlement et son action. Donc,
vous me détendez, là, parce que c'est presque un sketch.
Mais non, parce que...
C'est le festival de Marrakech.
Pas du tout. N'est-ce pas, Jamel? Non, mais la question... Non, ce que j'essaye de dire, c'est que aujourd'hui...
Mais vous le dites très bien.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est
qu'on a... Je ne crois pas un mot, mais je vous le dis très bien.
Non, mais parce que, imaginez qu'on fasse CVA en turc, qui, on va dire ça comme ça, je ne suis pas certain que j'aurais pu un peu avoir le même langage, puisque, regardez, ça fait trois gouverneurs en 2 ans.
Exactement.
Marc Ries, quel est le...
Alors moi, c'est pas un mot, c'est un chiffre, okay. Marc, qui m'a marqué, c'est les 200 millions d'Américains qui vont être vaccinés, 200 millions de doses, dans les 100 premiers jours de la présidence de Joe Biden. Et ça me donne envie de me dire que l'Amérique est quand même beaucoup mieux barrée que nous en Europe sur ces sujets-là, sur la réouverture, sur la reprise. Et donc de jouer des valeurs qui jouent plutôt la conso des Américains que la nôtre.
Allez, on passe tout de suite au top 3. Il y a pas mal de changements à la tête du top 3. On voit apparaître Frédéric Rodier qui fait depuis le début de l'année une performance de 20%. Eric Lewin est deuxième avec 11,7%. Apparition aussi sur le podium de Sébastien Corchia avec 8,8% de performance. Alors, Marc Ries, je vais vous lire votre portefeuille. Vous êtes bien en hausse depuis le début de l'année. On a Linde Hague, est-ce qu'on regarde? On a Brembo.
L'air liquide allemand, Marc.
Ouais. On a Brembo.
Les freins.
On a Knorr. Bon, c'est pas les. J'ai fait la même blague chaque fois, mais c'est pas les
freins pour les locomotives, okay, cette fois-ci.
Bon, je la fais quand même parce que sinon.
Oui.
Ceux qui me trouvent lourd. Ceux qui me trouvent lourd vont
être
déçus.
Ça freine dans la soupe, c'est ça.
Ouais. Pirelli, bon, Safran, Kering.
Kering, ouais, ça a été difficile ces derniers
Schneider.
Temps. Très bien.
On regarde tout, hein.
On regarde tout.
Amadeus.
On garde.
AstraZeneca, c'est marrant, ça a pas monté. Hein.
Non, alors ça c'est un peu un flop pour moi.
Non, c'est pas
flop, j'imaginais que ça allait bénéficier quand même, mais ça bouge pas.
Là, bon, il faut dire qu'ils sont pas très bons.
Hein. Ils ont été controversés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, c'est carrément une banane.
Là, j'avais envie.
Et attendez, il y a encore Intercontinental.
Oui.
Qui a bien marché, qui est en hausse de 5,7%. Et vous nous avez fait acheter Infineon en décembre 2001, et sur l'année, c'est déjà en hausse de 8,9%. Donc c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a
fait? Pas mal. Toujours, l'idée de cette réouverture, vaccination, reprise, ouverture des bars à New York, etc. Donc j'achète aujourd'hui du Diageo.
D'accord.
C'est le leader mondial des alcools, qui évidemment a un peu souffert avec la fermeture des bars.
Michel Rémy a tendu l'oreille.
Oui.
Non, je sais pas, vous aviez l'air très intéressé.
Ah, mais oui, tout à
c'est
fait.
Un sujet que vous connaissez
pas
spécialement.
Non, j'attends l'ouverture des bars pour.
Voilà. Alors, évidemment, sur l'Amérique, le redémarrage un peu de la consommation et notamment de l'alcool qui est assez cyclique dans ces cas-là.
Et là, par exemple, ça, c'est des valeurs de. C'est quoi? Ça a été des valeurs délaissées? C'est une valeur qui a beaucoup chuté, par exemple
Pas tellement, parce que c'est quand même plutôt du défensif, malgré tout. Quand vous regardez les pertes Ricard, les Rémy Cointreau, c'est des valeurs qui ont plutôt bien tenu.
Donc ça, c'est pas on a comment la classe. Alors c'est pas une valeur de croissance.
Alors
c'est pas value, c'est quoi?
Elle est, si vous voulez, ordinairement, c'est une valeur de croissance parce que ce secteur de la boisson
que les gens se bourrent la gueule de plus en plus en fait.
Voilà. Et c'est surtout il y a de plus en plus
donc,
de gens.
Donc c'est pas que les invités de l'émission, c'est
pas
général.
Que nous. Okay. C'est que il y a des millions de Chinois, d'Asiatiques maintenant qui ont accès au whisky et tout ça. Voilà. Qui se bourrent la gueule. Et donc, c'est par l'élargissement de la base de clientèle et par la montée en gamme des marques.
Donc vous jouez sur le fait que les gens deviennent de plus en plus alcooliques.
Absolument.
Ça, en fait. Okay,
absolument.
Super.
Il n'y a plus que ça à faire, Marc. Hein. Okay.
Alors, José Berros, vous avez, donc je vous le dis, votre portefeuille, vous me dites si on garde ou on vend. Vous avez D'accord. du Neoen.
On garde. Si on pouvait racheter, si on pouvait doubler la mise, je
Allez,
très bien.
On double la mise.
C'est possible,
Allez, c'est fait.
On peut.
C'est fait.
Ah ben super.
Je viens de passer l'ordre. Cellnex.
Oui, on conserve.
We're online.
On conserve.
Télé 2 à ne pas confondre avec Télé Z.
Alors ça, par contre, on va la sortir.
D'accord. Bah, c'est, ça monte hein, de 6,7% depuis le début de l'année.
Ouais, mais voilà.
Non, ça, ils vous ont énervé. Boiron.
On conserve.
Advanced Medical Solutions.
Oui, on conserve aussi. Tout ça.
RWS.
On conserve.
Ça a très bien performé, RWS. Ça fait 16,6% depuis le début de l'année. Alten.
On conserve aussi.
Et Nexi.
Et Nexi, on conserve aussi.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on va acheter une société espagnole qui s'appelle Acciona, qui a deux grandes activités. Donc, c'est une société qui est présente dans l'infrastructure, la construction, globalement. Tout un tas de pays, l'Espagne, les États-Unis et puis l'Amérique latine. Et puis, on ne le sait pas trop, mais c'est vrai que c'est le cinquième acteur mondial sur les énergies renouvelables. Ils ont un portefeuille de 10 gigawatts, donc c'est quand même assez, assez colossal.
Dans quoi? Dans l'éolien? Dans le solaire?
80% c'est de l'éolien et le reste c'est de la géothermie.
C'est un
néoen
ou
du solaire? Non, c'est un gros néoen. C'est quasiment trois fois néoen en fait.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ils n'ont pas que ça comme activité?
Ils n'ont pas que ça. Le gros, on va dire, de leur activité en termes de chiffre d'affaires, ouais, c'est de la construction de l'infrastructure, donc de ponts, d'écoles, d'hôpitaux, de routes, etc. Mais le gros de leur activité en termes, enfin de la rentabilité, provient de cet actif justement énergie renouvelable. Ce qui est, jusqu'à il y a 6 mois, qui était encore un peu, à nos yeux, caché en tout cas par la valorisation, puisque c'est une société assez complexe honnêtement à valoriser avec tout un tas d'activités. La décision qui a été prise, je crois que c'était le mois dernier, ou il y a 2 mois, c'est de séparer ces activités-là, de côté en bourse Acciona Energy. Donc ils vont le faire, je crois que c'est prévu pour le mois de juin. Donc ce qui va mettre en lumière, à nos yeux en tout cas, la véritable valeur de cet actif, va pouvoir donner des moyens financiers pour croître, et ils ont un projet qui est assez ambitieux et qui est tout à fait cohérent, en tout cas on peut en discuter, c'est de passer de 10 gigawatts à 20 gigawatts dans les 5 prochaines années. Et quand on écoute toutes les politiques européennes, quand on écoute toutes les politiques américaines de Joe Biden, etc., on voit très bien que voilà, c'est vraiment un marché qui est en train de s'élargir, où il y a énormément de croissance. Il y aura de la casse aussi, je vous rassure, j'en suis certain. Et quand on choisit les bons managers, les bonnes équipes, les bons actionnaires, comme Acciona ou Neoen, et il y en a d'autres, je pense que ça fait partie des bons investissements, en tout cas, sur du moyen long terme. Donc voilà,
c'était une Acciona valeur qui était à la fois value et croissance, et qui s'exprimait en une valeur value et une valeur croissance. Est-ce que j'ai bien compris?
C'est ça. C'était une valeur value dont la croissance n'était pas reconnue à nos yeux par le marché.
Et maintenant, ils l'ont splitté en deux valeurs.
Ils l'ont splitté pour mettre en lumière cet actif qui est un actif de très grande qualité. Et grâce à cette mise en bourse, ils m'ont donné des moyens financiers pour continuer à grandir.
C'est très clair. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine et on me dit déjà que l'émission de la semaine prochaine sera exceptionnelle.